Spinoza, Traité politique, chapitre 6. Paragraphe 1. Les hommes étant, comme nous l'avons dit, conduits par l'affection plus que par la raison, il suit de là que s'ils veulent vraiment s'accorder et avoir en quelque sorte une âme commune, ce n'est pas en vertu d'une perception de la raison, mais plutôt d'une affection commune, telles que l'espérance, la crainte ou le désir de tirer vengeance d'un dommage souffert. Nous l'avons dit à l'article 9 du chapitre 3. Comme d'ailleurs tous les hommes redoutent la solitude, parce que nul d'entre eux dans la solitude n'a de force pour se défendre et se procurer les choses nécessaires à la vie, il en résulte que les hommes ont de l'état civil un appétit naturel, et qu'il ne se peut faire que cet état soit jamais entièrement dissous. Paragraphe 2. Les discordes, donc, et les séditions qui éclatent dans la cité n'ont jamais pour effet la dissolution de la cité, comme c'est le cas dans les autres sociétés, mais le passage d'une forme à une autre, si du moins les dissensions ne se peuvent apaiser sans changement de régime. Par moyen de conserver l'État, j'entends donc les moyens requis pour le maintenir dans sa forme antérieure sans changement notable. Paragraphe 3. Si la nature humaine était disposée de telle façon que le plus grand désir des hommes se portât sur ce qui leur est le plus utile, il n'y aurait besoin d'aucun art pour maintenir la concorde et la fidélité. Mais, comme il est certain que les dispositions de la nature sont tout autres, l'État doit être réglé de telle sorte que tous, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui sont gouvernés, fassent de bon ou de mauvais gré ce qui importe au salut commun. C'est-à-dire que tous, de leur propre volonté ou par force ou par nécessité, soient contraints de vivre selon les préceptes de la raison. Il en sera ainsi quand les affaires de l'État seront ordonnées de telle façon que rien de ce qui concerne le salut commun ne soit abandonné absolument à la foi d'un seul. Nul en effet n'est si vigilant qu'il ne s'endorme quelquefois, et nul n'a jamais eu l'esprit si puissant et si ferme, d'une trempe telle qu'il n'ait été parfois brisé et n'ait souffert une défaite alors que l'on avait le plus besoin de force d'âme. Et il est insensé, certes, d'exiger d'un autre ce que nul ne peut obtenir de lui-même, c'est-à-dire qu'il veille au salut d'autrui plus qu'au sien propre, qu'il ne soit ni avide, ni envieux, ni ambitieux, etc., alors surtout qu'il est en proie quotidiennement aux sollicitations de la sensibilité. Paragraphe 4. L'expérience paraît enseigner cependant que dans l'intérêt de la paix et de la concorde, il convient que tout le pouvoir appartienne à un seul. Nul État en effet n'est demeuré aussi longtemps sans aucun changement notable que celui des Turcs. Et en revanche, nulle cité n'ont été moins durables que les cités populaires ou démocratiques. Et il n'en est pas où se soit élevé plus de sédition. Mais si la paix doit porter le nom de servitude, de barbarie et de solitude, il n'est rien pour les hommes de si lamentable que la paix. Entre les parents et les enfants, il y a certes plus de querelles et de discussions plus âpres qu'entre maîtres et esclaves. Et cependant, il n'est pas de l'intérêt de la famille, ni de son gouvernement, que l'autorité paternelle se change en une domination et que les enfants soient tels que des esclaves. C'est donc la servitude, non la paix, qui demande que tout le pouvoir soit aux mains d'un seul. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la paix ne consiste pas dans l'absence de guerre, mais dans l'union des âmes, c'est-à-dire dans la concorde. Paragraphe 5. Et certes, ceux qui croient qu'il est possible qu'un seul est un droit suprême sur la cité commettent une grande erreur. Le droit, comme nous l'avons montré au chapitre 2, se définit par la seule puissance. Or, la puissance d'un seul homme est bien incapable de soutenir une charge pareille. De là vient que, si la masse élit un roi, il cherche des hommes investis d'un pouvoir, conseillers ou amis, auxquels il remet le salut commun et le sien propre, de telle façon que l'État que nous croyons être monarchique absolument est en réalité aristocratique. Cela, non d'une façon ouverte mais cachée, et par là même très mauvaise. À cela s'ajoute qu'un roi enfant, malade ou accablé d'années, est roi de non seulement, et que ceux-là ont en réalité le pouvoir qui administre les plus hautes affaires de l'État ou qui sont le plus près du roi. Pour ne rien dire d'un roi qui, s'abandonnant à l'appétit sensuel, gouverne en tout, suivant l'appétit de telle ou telle maîtresse, de tel ou tel mignon. J'avais entendu dire, dit Orsine, qu'en Asie, jadis, des femmes ont régné. Mais voici qui est nouveau, le règne d'un castrat. Quinte Curse, livre 10, chapitre 1er. Paragraphe 6. Il est certain, en outre, que les périls menaçant la cité ont pour cause toujours les citoyens plus que les ennemis du dehors, car les bons citoyens sont rares. D'où suit que celui qui a le droit de commander est commis en entier, craindra toujours plus les citoyens que les ennemis du dehors, et conséquemment s'appliquera à se garder lui-même, et au lieu de veiller sur les sujets, à leur tendre les pièges, surtout à ceux que leur sagesse aura mis en lumière ou que leurs richesses auront rendu puissants. Paragraphe 7. Ajoutez encore que les rois redoutent leurs fils plus qu'ils ne les aiment, et cela d'autant plus que ces fils sont plus habiles dans les arts de la paix comme à la guerre, et plus aimés des sujets pour leurs vertus. Les rois s'appliqueront donc à élever leurs fils de manière à n'avoir pas de raison de les craindre, et les officiers du royaume en cette matière défèrent avec empressement au désir du roi et font de leur mieux pour que le prince appelé à succéder soit un homme sans culture, plus facile à manœuvrer. Paragraphe 8. De tout ce qui précède, il suit que le roi est d'autant moins son propre maître et que la condition du sujet est d'autant plus digne de pitié que le pouvoir de la cité lui est davantage transféré sans réserve. Il est donc nécessaire, pour établir un régime monarchique tel qu'il se doit, de poser des principes assez fermes pouvant lui servir de fondement, des principes donnant la sécurité au monarque et la paix à la population, de façon que le monarque soit autant qu'il est possible son propre maître et veille le plus qu'il se puisse au salut de la population. Quels doivent être ces principes? C'est ce que je vais d'abord énoncer, après quoi je les exposerai avec ordre. Paragraphe 9. Il faut fonder et fortifier une ville ou plusieurs villes dont tous les citoyens, qu'ils habitent dans l'enceinte fortifiée ou au dehors, parce qu'ils s'adonnent à l'agriculture, aient la jouissance du même droit dans l'État, à une condition toutefois. Il faut que chaque ville ait un nombre déterminé de citoyens suffisant pour pourvoir à la défense commune. Une ville qui ne satisfait pas à cette condition doit être considérée comme placée dans des conditions différentes sous la domination du souverain. Paragraphe 10. L'armée doit comprendre les seuls citoyens, sans en excepter aucun, et nul étranger ne doit en faire partie. Il faut donc que tous aient obligatoirement des armes et que nul ne soit reçu au nombre des citoyens qu'après s'être instruit au maniement des armes et s'être engagé à s'y exercer pendant certaines périodes de l'année. Quand ensuite la force armée de chaque clan aura été répartie en cohortes et en légions, nul ne devra être appelé au commandement d'une cohorte qui n'aura pas appris l'art des constructions militaires. Les chefs des cohortes et des légions seront nommés à vie, mais l'officier qui commandera en temps de guerre toute la force armée d'un clan n'exercera ce commandement que pendant une année et ne pourra ni conserver ce commandement par la suite, ni être désigné à nouveau. Ces commandants devront être choisis parmi les conseillers du roi, dont il sera parlé au paragraphe 15 et au suivant, ou parmi ceux qui auront exercé les fonctions de conseiller. Paragraphe 11. Les habitants de toutes les villes et les agriculteurs, c'est-à-dire tous les citoyens, doivent être répartis en clans, se distinguant les uns des autres par le nom et par quelque insigne. Tous ceux qui viendront à naître dans ces groupes seront reçus au nombre des citoyens et auront leur nom inscrit sur la liste du groupe dès qu'ils seront en âge de porter les armes et de connaître leurs obligations. À l'exception toutefois de ceux qui se seront fait noter d'infamie à cause de quelques crimes, des muets, des déments et des domestiques vivant de quelque office servile. Paragraphe 12. Les champs et tout le sol, et s'il se peut aussi les maisons, seront du domaine public, c'est-à-dire appartiendront à celui qui possède le pouvoir dans la cité et seront loués à l'année aux citoyens, tant aux habitants des villes qu'à ceux des campagnes. Et tous seront, en temps de paix, affranchis de tout impôt. Une part des sommes payées à titre de loyer sera affectée aux besoins de l'État. Une part réservée à l'usage personnel du roi. En temps de paix, en effet, il faut, en vue de la guerre, fortifier les villes et tenir prêt des navires et d'autres engins de combat. Paragraphe 13. Une fois élu, le roi, pris dans quelqu'un des clans, il n'y aura d'autres personnes réputées nobles que celles qui seront issues du roi, et elles porteront pour cette raison des insignes royaux qui les distingueront et de leur propre clan et des autres. Paragraphe 14. Il sera interdit de se marier aux consanguins du roi de sexe masculin qui seront avec lui à 3 ou 4 degrés de parenté. Les enfants qu'il pourrait procréer seront réputés illégitimes et privés de toute dignité. Ils n'hériteront pas de leurs parents dont les biens seront dévolus au roi. Paragraphe 15. Il devra y avoir, pour assister le roi, plusieurs conseillers qui viendront immédiatement après lui en dignité et ne pourront être choisis que parmi les citoyens. 3 ou 4 individus appartenant à chaque clan, 5, si le nombre des clans ne dépasse pas 600, formeront ensemble un membre du conseil. Ils ne seront pas nommés à vie, mais pour 3, 4 ou 5 années, de telle façon que chaque année, un tiers, un quart ou un cinquième du groupe soit renouvelé. Et il faudra prendre le plus grand soin que parmi les individus désignés dans chacun des clans, l'un au moins soit versé dans la connaissance du droit. Paragraphe 16. Cette désignation devra être faite par le roi lui-même à un moment déterminé de l'année celui qui aura été fixé pour la désignation commune des nouveaux conseillers. Chaque clan communiquera au roi le nom de ceux de ses membres qui seront parvenus à l'âge de 50 ans et qui auront été régulièrement promus au rang de candidat. C'est parmi eux que le roi choisira qui il voudra. Quand ce sera le tour d'un légiste d'être désigné, seuls les noms des hommes versés dans la science du droit seront communiqués au roi. Les conseillers qui auront exercé leurs fonctions pendant le temps établi ne pourront pas rester plus longtemps en exercice ni être portés sur la liste des éligibles avant un laps de temps de 5 ans ou davantage. La raison pour laquelle il est nécessaire qu'un membre de chaque clan soit élu chaque année est qu'il ne faut pas que le conseil soit composé tantôt de novices sans expérience, tantôt d'hommes ayant l'expérience des affaires, ce qui ne pourrait manquer d'arriver si tous parvenaient en même temps à la fin de leur mandat et étaient remplacés par de nouveaux conseillers. Si au contraire, chaque année, un membre de chaque clan est élu, il n'y aura jamais qu'un cinquième, un quart ou au plus un tiers du conseil qui se composera de novices. En outre, si le roi, retenu par d'autres affaires ou pour une raison quelconque, ne peut désigner les nouveaux conseillers, ce sont les membres en exercice qui procéderont à une désignation provisoire jusqu'à ce que le roi nomme d'autres conseillers ou approuve la désignation déjà faite. Paragraphe 17. Le principal office de ce conseil sera de maintenir la loi fondamentale de l'État et de donner son avis sur les affaires de façon que le roi sache quelles décisions il faut prendre dans l'intérêt public et qu'il ne sera permis au roi de statuer sur aucune affaire sans avoir entendu l'avis du conseil. Si, comme il arrive le plus souvent, l'avis du conseil n'est pas unanime et qu'il y ait plusieurs opinions en présence, même après que la question aura été posée 2 ou 3 fois, l'affaire ne devra pas être retardée davantage et les opinions divergentes devront être communiquées au roi, comme nous le montrerons au paragraphe 25 de ce chapitre. Paragraphe 18. L'office du conseil sera aussi de promulguer les lois et les décrets du royaume, de veiller à l'exécution des lois et à toute l'administration de l'État en qualité de vicaire du roi. Paragraphe 19. Les citoyens n'auront aucun accès auprès du roi, sinon par l'intermédiaire du conseil, auquel seront transmises toutes les pétitions et suppliques afin d'être par lui communiquées au roi. Aux ambassadeurs des cités étrangères également, il ne sera possible d'obtenir la faveur de parler au roi que par l'intermédiaire du conseil. Les missives envoyées au roi du dehors lui seront transmises par le conseil et d'une manière générale, le roi devra se regarder comme l'âme de la cité, mais le conseil tiendra la place qu'occupent dans l'homme les organes des sens. Il sera en quelque sorte le corps de la cité par lequel l'âme conçoit la situation de l'État et agit après avoir décidé ce qui est pour lui le meilleur. Paragraphe 20. Le soin d'élever les fils du roi appartient aussi au conseil, de même que leur tutelle si le roi vient à mourir en laissant un enfant en bas âge ou un jeune garçon. Pour que toutefois le conseil ne se trouve pas sans roi en attendant, c'est le plus âgé des nobles de l'État qui tiendra lieu de roi jusqu'à ce que le successeur légitime ait atteint l'âge où il lui sera possible de supporter le fardeau du pouvoir. Paragraphe 21. Les candidats au conseil devront être des citoyens qui connaissent le régime, les principes fondamentaux, la situation ou la condition de la cité. Pour qui veut occuper une place de légiste, il devra connaître, outre le régime et les conditions de la cité dont il est sujet, le régime et les conditions des autres cités avec lesquelles la sienne a un commerce quelconque. Mais seuls ceux qui seront parvenus à leur 50e année sans avoir été convaincus d'aucun délit pourront être portés sur la liste des éligibles. Paragraphe 22. Dans le Conseil, aucune décision sur les affaires de l'État ne pourra être prise que si tous les membres sont présents. Si par suite de maladie ou pour quelque autre cause, l'un des membres se trouve dans l'impossibilité d'être présent, il devra envoyer à sa place un membre du même clan qui aura déjà exercé les fonctions de conseiller ou sera porté sur la liste des éligibles. S'il ne l'a pas fait et que le conseil, par suite de son absence, ait dû ajourner la discussion d'une affaire, il sera condamné à payer une forte amende. Mais cette disposition doit s'entendre comme applicable quand il s'agit d'une affaire intéressant tout l'État, par exemple de la guerre ou de la paix, de l'abrogation d'une loi ou de son institution, du commerce, etc. Si au contraire il s'agit d'une affaire concernant telle ou telle ville, de l'examen de quelques suppliques, il suffira de la présence de la majorité du Conseil. Paragraphe 23. Afin qu'il y ait en tout égalité entre les clans de citoyens et qu'un certain ordre soit observé quant au siège à occuper, aux motions à proposer, aux discours à tenir, chacun d'eux à son tour aura la préséance, et celui qui aura été le premier dans une session sera le dernier dans la suivante. Dans la représentation d'un même clan, c'est le premier élu qui tiendra le premier rang. Paragraphe 24. Le Conseil devra être convoqué au moins 4 fois dans l'année pour que les fonctionnaires lui rendent compte de l'administration de l'État, qu'ils prennent connaissance de la situation et voient s'il y a quelques points sur lesquels il faille statuer. Il est impossible en effet qu'un si grand nombre de citoyens vaquent sans interruption aux affaires publiques. Mais les affaires publiques ne pouvant chômer, 50 membres du Conseil ou un plus grand nombre devront être désignés pour tenir lieu de Conseil dans l'intervalle des sessions. Cette commission permanente se réunira tous les jours dans un local à proximité du roi, et tous les jours aussi s'occupera des finances, des villes, des fortifications, de l'éducation des fils du roi et d'une manière générale remplira tous les offices du grand conseil précédemment énumérés, sauf qu'elle ne pourra délibérer sur des affaires au sujet desquelles rien encore n'a été décrété. Paragraphe 25. Le Conseil réunit, avant qu'aucune proposition lui soit faite, 5 ou 6 légistes ou davantage, appartenant au clan qui occupe le premier rang dans la session, se rendront auprès du roi et lui remettront les suppliques ou les lettres s'il y en a, afin de lui faire connaître la situation et de recevoir ses instructions sur ce qu'il veut qu'on propose au Conseil. Ces instructions reçues, ils reviendront siéger dans le conseil et celui qui a la présidence ouvrira le débat. Les suffrages ne seront pas recueillis aussitôt quand il s'agira d'une affaire jugée par l'un des membres comme étant de quelque importance. Mais on attendra aussi longtemps que l'urgence de la décision à prendre le permettra. Pendant le temps que le conseil ne siégera pas, les conseillers représentant chacun des clans pourront examiner l'affaire entre eux et, si elle leur paraît de grande importance, consulter d'autres citoyens ayant fait partie du conseil ou candidats au conseil. Si, au moment qui a été fixé pour la réunion du conseil, ils ne sont pas arrivés à s'entendre, leur clan ne pourra pas prendre part au vote, car chacun des clans n'a qu'une voix. Dans le cas contraire, le légiste du clan présentera au conseil l'opinion qui aura été reconnue la meilleure, et les autres clans feront de même. Après avoir entendu toutes ces opinions et les raisons qui les motivent, si la majorité du conseil le juge bon, on procède à un nouvel examen. La séance sera de nouveau suspendue pour un temps déterminé, à l'expiration duquel chaque clan devra faire connaître son dernier avis. Alors seulement, devant le conseil réuni en entier, les suffrages seront recueillis et l'opinion qui n'aura pas réuni au moins 100 voix sera définitivement écartée. Les autres seront transmises au roi par tous les légistes appartenant au conseil afin qu'il choisisse l'opinion qu'il voudra après avoir eu connaissance des raisons de chaque partie. Les légistes rentreront ensuite dans le conseil où tous attendront le roi pour savoir de lui, au moment qu'il aura fixé, laquelle des opinions à lui transmises il juge qu'il faut adopter et ce qu'il décide qu'on fera. Paragraphe 26. Pour administrer la justice. Un autre conseil sera formé des seuls juristes dont l'office est de régler les différends et de prononcer des peines contre les délinquants. Toutefois, toutes les sentences rendues par eux doivent être approuvées par la commission permanente remplaçant le grand conseil qui examinera si ces sentences auront été rendues en conformité des règles du droit et avec impartialité. Si l'une des parties, celle qui aura perdu son procès, peut montrer que l'un des juges s'est laissé corrompre par un présent de l'adversaire ou avait quelque raison de lui vouloir du bien ou de haïr le plaignant, ou si enfin les formes légales n'ont pas été observées, l'affaire devra être entièrement reprise. Peut-être ces dispositions paraîtront inacceptables à ceux qui, lorsqu'il s'agit d'une affaire criminelle, ont coutume de convaincre un coupable moins par des arguments que par la torture. Pour moi, cependant, je ne conçois pas de procédure autre que celle qui s'accorde avec le meilleur gouvernement de la cité. Paragraphe 27. Ces juges doivent être en grand nombre et un nombre impair, 61, 51 au moins, et de chaque clan de citoyens. Un seul doit être désigné, non à vie, mais de façon qu'il y ait chaque année des membres du tribunal qui soient remplacés par d'autres, appartenant à d'autres clans et parvenus à l'âge de 40 ans. Paragraphe 28. Dans ce tribunal, nulle sentence ne doit être prise qu'en présence de tous les juges. Si l'un d'eux est éloigné longtemps par la maladie ou quelque autre cause, il faudra désigner un suppléant. Quand on ira aux voix, chacun donnera son avis, non point publiquement, mais au moyen de boules. Paragraphe 29. Les émoluments à payer aux membres de ce tribunal et ceux de la commission permanente du Grand Conseil seront pris sur les biens des condamnés à une peine pécuniaire. En outre, en toute affaire civile, il devra être payé par celui qui aura perdu son procès une certaine somme proportionnée à l'importance du litige, et de cette somme, les deux conseils auront la jouissance. Paragraphe 30. À ces conseils seront subordonnés dans chaque ville d'autres conseils dont les membres ne seront pas nommés à vie, mais partiellement remplacés chaque année et devront être pris dans les clans habitant cette ville. Mais point n'est besoin de développer ce point. Paragraphe 31. En temps de paix, la milice ne recevra aucune paye. En temps de guerre, elle recevra une solde calculée de façon à assurer tout juste à chaque militaire la vie quotidienne. Quant aux commandants et aux officiers des cohortes, ils n'auront d'autres rétributions à attendre de la guerre que le butin fait sur l'ennemi. Paragraphe 32. Si quelque étranger a contracté mariage avec la fille d'un citoyen, ses enfants seront réputés citoyens et inscrits sur la liste du clan auquel appartient la mère. Pour ceux qui sont nés de parents étrangers dans les limites de l'État et y auront été élevés, il leur sera permis d'acheter le droit de cité des chefs d'un clan et ils seront inscrits alors sur la liste des membres de ce clan. Nul dommage ne peut résulter de là pour l'État, alors même que les chefs de clan, par avidité, auraient consenti à vendre le droit de cité à un étranger au-dessous du prix fixé et augmentent ainsi le nombre des citoyens. Au contraire, on doit chercher le moyen d'accroître le nombre des citoyens et de faire que la population soit abondante. Quant aux personnes non portées sur les listes de citoyens, il est juste qu'au moins en temps de guerre, elles fournissent du travail ou paient un impôt pour compenser leur inaction. Paragraphe 33. Les ambassadeurs qui, en temps de paix, sont envoyés dans les autres cités pour traiter de la paix ou la maintenir, seront choisis parmi les seuls nobles et ils auront à pourvoir à leurs dépenses sur le trésor de la cité, non sur la cassette du roi. Paragraphe 34. Les personnes allant à la cour et appartenant à la maison du roi, auxquelles il paie des émoluments sur sa cassette, devront être exclues de toute fonction ou de tout office public. Je dis expressément ceux que le roi paie sur sa cassette particulière, pour ne pas comprendre dans le nombre les gardes du corps. Car il ne doit y avoir d'autres gardes du corps que les citoyens de la même ville qui doivent veiller à tour de rôle aux portes du roi sans rétribution. Paragraphe 35. Il ne faut faire la guerre qu'en vue de la paix, et une fois la guerre finie, les armes doivent être déposées. Quand des villes ont été conquises et que l'ennemi est vaincu, il faut poser des conditions de paix telles que les villes prises demeurent sans garnison. Ou bien, il faut accorder à l'ennemi par traité la possibilité de les racheter. Ou bien, si de cette façon la force de leur situation devait toujours inspirer de la crainte, il faut les détruire entièrement et transporter les habitants dans d'autres lieux. Paragraphe 36. Il ne sera permis au roi de prendre pour femme une étrangère, mais seulement quelques filles choisies dans sa propre famille ou dans la famille d'un citoyen. À cette condition toutefois que, s'il épouse la fille d'un citoyen, les personnes unies à elle par le sang ne pourront exercer aucune fonction publique. Paragraphe 37. Le pouvoir doit être indivisible. Si donc le roi a engendré plusieurs enfants, c'est à l'aîné par droit de nature de lui succéder. Il ne faut jamais admettre que la royauté soit partagée entre eux, ni qu'elle reste indivise entre tous ou quelques-uns. Et il faut permettre encore beaucoup moins qu'une partie de l'État soit donnée en dot à une fille, car sous aucun prétexte, les filles ne doivent hériter du pouvoir. Paragraphe 38. Si le roi meurt sans laisser d'enfant mâle, son plus proche parent sera héritier du pouvoir, à moins qu'il n'ait épousé une étrangère et ne veuille pas la répudier. Paragraphe 39. Pour ce qui est des citoyens, il est manifeste par le paragraphe 5 du chapitre 3 que chacun d'eux est tenu d'obéir à tous les commandements du roi, c'est-à-dire à tous les édits promulgués par le Grand Conseil. Voir au sujet de cette condition les paragraphes 18 et 19 de ce chapitre, alors même qu'il les juge absurdes et qu'il peut légitimement y être contraint. Tels sont les principes fondamentaux d'un État monarchique, les bases sur lesquelles il doit être édifié pour être stable, ainsi que nous le démontrerons dans le chapitre suivant. Paragraphe 40. Pour ce qui est de la religion, il ne faut pas que des temples soient construits aux frais des villes, ni qu'il y ait des lois sur les croyances, à moins qu'elles ne soient séditieuses et ne détruisent les fondements de la cité. Ceux à qui la liberté de pratiquer publiquement un culte religieux est donnée élèveront des temples, s'ils le veulent, à leurs frais. Quant au roi, il aura dans sa cour un temple à lui pour y pratiquer la religion de son choix.